football boots that will help her score her first hat trick. The tech that keeps you connected. The cozy jumpers that are perfect for snuggling up together. With a choice of ways to pay, you can make the most of family time. You can say yes when it matters most at very.co.uk. Goods and services provided by ShopDirect Home Shopping Limited. Credit provided by ShopDirect Finance Company Limited.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les matchs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. L'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot, uniquement sur RMC à la radio. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Et Daniel Riolo est là, comme tous les soirs. Daniel, bonsoir.
Et salut les amis. Et tu sais, Gilbert, que le coup de la demi-molle, je crois que je ne l'avais jamais entendu.
C'est Dimitri Lienard qui avait.
Ah, je me souvenais pas du tout.
C'est un nouveau générique, ça tombe.
Ouais, ok, mais même en confinement, il bosse Paul pour faire le générique. Hein.
Écoute, il n'est pas débordé, hein, donc ouais. Il peut. Celui-là, il est bien.
Ouais, j'aime bien.
Laure Le Bailleur est avec nous également ce soir. Salut Laure.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Oh Laure, salut.
Jérôme Rotten, bien sûr.
Ça va,
salut
Daniel.
Jérôme.
Oui Laure, ça va.
Bonsoir à tous, salut Daniel. Oh Laure, ça va Laure?
Eh oui, parce que personne n'avait dit qu'elle était là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été étonné. Voilà.
On échange des messages toute la journée avec Laure dedans, mais toi tu sais pas qu'elle est là. Ça c'est fantastique. Ouais.
Eh ben alors,
il les regarde vachement les messages.
Non,
pour raquer le poker. Hein. Et les carbonara.
Gilbert peut témoigner que je fais même un petit peu plus pour les regarder, mais justement, comme le groupe avait changé aujourd'hui, puisque vous avez mis quelqu'un de nouveau, et qu'en fait je n'arrivais pas à voir les tu sais, parce que on reçoit les petites initiales. Je me suis
dit, donc t'as vu LL, tu t'es dit c'est Lionel Letizy.
mais je me suis dit, ouais, Jérôme, il a dû se gourer. Je me dis, d'ailleurs, tellement j'ai cru que vous étiez gouré, t'as pas remarqué qu'après je vous ai répondu qu'à vous deux et j'ai enlevé la troisième personne.
Bon, bah voilà. Tu vois, c'est bel et bien Laure qui est là.
Donc, j'ai même zappé Laure de la réponse.
Je précise que Julien Cazarneau gendra pour le quiz tout à l'heure à 23h40, bien sûr. Et l'événement dans l'after ce soir, c'est Valère Germain qui sera avec nous dans quelques petites secondes. Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. Hein, on va parler de la saison.
Je croyais que l'événement, c'était bonne année qu'on devait dire à Jérôme. Bonne année. Ah,
attends, j'y arrive. Puis la saison de Marseille, bien sûr. Le 32-16 est ouvert à 23h. Le 32-16 sera là réservé aux moins de 30 ans. Qui viendront partager leurs souvenirs de foot avec nous.
Carte d'identité en main, on ne veut pas de mytho.
Suite à notre émission spéciale Michel Hidalgo la semaine dernière, donc appelez-nous dès maintenant pour réserver votre place. Et effectivement, tomberont de messages de compiles sur Twitter aujourd'hui. Chaque club de Jérôme a envoyé les meilleurs moments de Jérôme Rotten à Ankara Gucciu, au Glasgow Rangers.
Non, Ankara Gucciu,
à Bastia. voilà, les buts, les trucs, les coupes de cheveux improbables. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jérôme. Donc, bon anniversaire, mon vieux.
Merci. Bon anniversaire. Gentil. Merci à tous. J'ai reçu beaucoup de messages très sympas. Ils ont fait des petits. Surtout le Paris Saint-Germain a fait quelque chose de très cool. Voilà, je les ai remerciés. Ankara Gucciu, j'ai pas eu. Bon, peut-être qu'ils attendent de m'envoyer la valise de billets qu'ils me doivent depuis 15 ans. Mais bon, écoute, je sais pas, j'attends encore. Là, vu que la Poste a quelques difficultés en ce moment, peut-être que ça va arriver. Hein.
Allez les gars, on y va. Valère Germain est avec nous en direct. Bonsoir Valère.
Bonsoir tout le monde. Et puis bon anniversaire à Jérôme alors du coup.
Merci Valère.
Alors on est ravis d'avoir Valère avec nous. Nous dans l'after on n'a pas souvent de joueurs hein, Valère, parce qu'on a plutôt une émission d'après-match, on analyse les matchs, tout ça. Donc
tu veux dire qu'on les sélectionne, les invités?
Bah un petit peu, on va pas se mentir.
Bah, y en a qui veulent plus te parler Daniel, donc le problème
c'est
il
pas
est
vrai. Bah, c'est pas vrai, regarde, après Valère Germain il accepte bien.
Bon, ça va, c'est bon.
Mais on est ravis d'avoir Valère avec nous. Bon déjà comment se passe le confinement Valère, le moral est bon?
Ouais, très bien. Je pense qu'il y a des épreuves plus difficiles dans la vie. On nous demande simplement de rester à la maison. Donc certes, le temps est un peu long, mais au moins on en profite pour faire des choses à la maison et puis surtout pour continuer à s'entretenir aussi.
Ah, t'arrives à faire un peu de sport ?
Oui, j'habite dans une résidence où il y a un parc en bas quand même. Donc j'essaye d'aller courir du lundi au vendredi et essayer de faire un peu de musculation, un peu de gainage et les choses qui sont importantes. c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas encore exactement la date de reprise. On ne sait pas à quelle dose on doit faire le travail, mais on est obligé de le faire au moins un minimum.
Le club vous a donné un programme à respecter ou c'est chacun fait un peu ce qu'il veut ?
Non. Le club nous a envoyé un programme à respecter. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de joueurs professionnels qui ont un préparateur physique en plus. Et donc, on pique entre les deux programmes. On arrive à faire des beaux programmes pour rester en forme parce que s'il faut, le championnat va reprendre un peu plus vite que prévu ou plus dans un avenir plus lointain. Donc, on est obligé de travailler au moins.
Daniel.
Comment vous avez pris, Valère, quand la nouvelle est tombée hein, et que il y a eu cette décision d'arrêter le championnat, quand on est deuxième du championnat, comme vous l'étiez, sur une dynamique forcément et globalement positive, la nouvelle comme ça, la saison est en train de s'arrêter, on ne sait pas quand elle va reprendre. Comment on prend ça dans la tronche ?
Déjà, la première chose, c'est qu'on relativise un peu, le football un peu. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Ouais. Mmh. On voit que, comme je vous disais tout à l'heure, que le confinement n'est, je dis pas qu'il est dur, il est long parce qu'il y a beaucoup plus dur dans la vie, comme ce qui est en train de vivre ce qui sont en train de vivre tous les professionnels de la santé. Donc c'est sûr que c'est long parce qu'on est privé de notre passion, mais il y a beaucoup plus dur dans la vie. Après c'est sûr que on était dans une situation, on était bien parti pour être dans nos objectifs de début de saison. Maintenant on ne sait pas quand on va reprendre le championnat, mais on a toujours nos points d'avance, le classement est toujours tel qu'il était il y a 15 jours, donc on aura une fin de saison à jouer, on fera tout pour aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions.
Vas-y, si tu veux enchaîner.
Et donc justement, vu ce qui s'est passé dans ces 28 premiers matchs, vous êtes dans le camp de ceux qui veulent que coûte, on la termine cette saison, parce qu'elle est importante pour vous, elle est importante pour le club et pour tout ce qui s'est passé, quoi.
Oui, bien sûr, elle doit se terminer. Il y a tellement d'enjeux sportifs, financiers, j'en passe, qu'elle doit se terminer. Maintenant, si au pire des cas ne se termine pas, il faudra prendre, je pense, le classement actuel. Ce serait trop horrible pour tous les efforts que chaque équipe et chaque joueur ont fait depuis le début de saison d'annuler une saison comme j'ai pu l'entendre. Donc voilà, on espère vraiment que ça va reprendre. On est persuadé que ça va reprendre. C'est pour ça qu'on s'entretient et on attend juste maintenant la date de reprise des entraînements et du championnat.
Voilà, bon, on passera l'enregistrement à Jean-Michel Aulas, hein, vu que j'étais pas d'accord avec lui. Oui, vas-y, Jérôme.
Valère, ben moi, je voulais rebondir sur le côté, tu parlais du côté financier, forcément, et économique des clubs, ça les mettrait en grande difficulté de pas reprendre le championnat. On s'est un petit peu attrapé hier avec Daniel, sur le fait que, à l'étranger, il y avait eu des actes assez forts de certaines équipes, des joueurs, qui acceptaient de laisser une partie de leur salaire. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les dirigeants, avec le président ou l'actionnaire, par exemple, pour parler de ces salaires
ou entre joueurs? On a eu une réunion, une conférence avec le président et certains joueurs. Et c'est là que le président nous a expliqué qu'on allait être en chômage partiel. Donc on avait plusieurs questions que la plupart des joueurs de l'équipe nous avaient posées juste avant, et il a été très clair avec nous en nous disant qu'on allait être au chômage partiel, que c'était aussi notre responsabilité d'accepter ça, et surtout pour l'avenir du club, parce qu'on est dans une période compliquée pour tous les clubs français, dont l'OM. Donc voilà, et puis nous, on a accepté, bien sûr, sans problème, parce qu'on a aussi une conscience et on veut que l'OM continue à vivre, quoi.
Parlons maintenant un peu de... oui, Laure, tu veux parler encore de la situation, parce que sinon, après, on parle de la saison et on parle de foot. Vas-y,
non,
Laure.
Non. Ouais, bah justement, moi, j'allais plutôt une question sportive à lui poser. Plutôt cette saison, du Villas-Boas, il l'utilise régulièrement sur le côté droit. Je sais que c'est un joueur qui a un superbe état d'esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine forme de frustration sur le fait d'évoluer sur un côté, alors que je suppose qu'il préférait jouer en pointe avec un deuxième attaquant?
Vous savez, moi, tant que je suis sur le terrain, je suis le plus heureux. Après, c'est sûr que je pense que je serai plus à l'aise dans un système à deux, comme je l'ai toujours été depuis que j'ai commencé ma carrière. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis arrivé à Marseille, on a rarement joué dans un système à deux, à part une période avec Mario Balotelli, où justement, c'était plutôt bien percé personnellement. Maintenant, le coach a été clair depuis le début. Il a un système en tête et en plus, il y a les résultats qui montrent que ce système est le bon pour cette saison. Donc, il m'a demandé si je pouvais jouer sur un côté parce qu'il y a eu quand même pas mal d'absence sur le côté. Et puis, il connaît mon état d'esprit et il sait que voilà, moi, je vais rien dire et je vais jouer. Il y a eu des matchs où ça s'est bien passé, d'autres un peu moins. Mais bon, c'est un poste que je découvre aussi, donc je pense que c'est normal. Mais voilà, il y aura d'autres saisons qui seront meilleures personnellement, mais le plus important, c'est qu'on collectivement, on aille chercher cette place en Ligue des Champions.
C'est toujours votre force, Valère, de toute façon, cet état d'esprit, même si, parce qu'évidemment, vous faites partie de ces joueurs qui, au début de la saison, on ne sait jamais s'ils vont être titulaires ou pas. A priori, même globalement, on se dit toujours que vous avez plutôt le profil remplaçant, mais vous arrivez toujours à tirer votre épingle du jeu. Vous écartez les critiques d'un revers d'une main, et elles existent, les critiques, sur votre compte, et vous arrivez à vous imposer, à être dans les belles aventures, à être... à jamais baisser les bras, quoi. C'est ça, c'est votre force, c'est le mental.
Oui, après, c'est simplement le respect vis-à-vis du football. C'est quand on est sur un terrain, c'est comme ça que j'ai été éduqué, il ne faut jamais baisser les bras, toujours se donner à fond. Peu importe là où on est aligné, que ce soit sur le côté, un peu plus bas, un peu plus haut sur le terrain, essayer de faire le maximum. Après, c'est sûr que je suis conscient aujourd'hui que le milieu droit, ce ne sera pas mon poste jusqu'à la fin de ma carrière, ce n'est peut-être pas celui qui me met le plus en lumière, mais c'est aujourd'hui là où le coach a besoin de moi, et donc comme je l'ai dit, j'essaye de faire un maximum à ce poste et d'essayer d'être utile à l'équipe.
Alors, le problème, Valère Germain, c'est qu'on a l'impression que dans le foot aujourd'hui, c'est ceux qui gueulent le plus qui obtiennent. C'est-à-dire le joueur qui est pas content, qui fait 2-3 interviews en disant « Ouais, j'en ai marre, puisque c'est comme ça, je veux me casser. » Ou alors qui envoie son agent voir le coach. Et en fait, être en gros bien élevé et se taire, c'est pas forcément son avantage, non ?
Il y a eu des moments dans ma carrière où je me suis dit oui, c'est vrai, vous avez peut-être raison. Après, c'est pas comme ça que je suis, j'ai jamais été.
Il faut être naturel, vous avez raison, Valère, il faut être naturel.
Aujourd'hui, je suis quand même très fier de la carrière que j'ai.
Bah, bien sûr.
Comme vous avez dit, j'ai vécu beaucoup de belles expériences collectives avec des très belles saisons, que ce soit à Monaco, à Nice ou même à Marseille. Donc voilà, je suis comme ça. Après, c'est peut-être aussi pour ça que je fais la carrière que je fais, c'est-à-dire que voilà, je suis naturel, je suis toujours à fond pour le collectif et j'ai plutôt une belle carrière. Donc voilà, que ça continue comme ça. Moi, je suis comme ça et que ça restera comme ça.
Les critiques, parce qu'à Marseille, c'est quand même dur. Et vous faites sans doute partie du podium des gars qui sont le plus allumés de façon régulière, y compris par des influenceurs marseillais bien connus. C'est pas saoulant quand même au bout d'un moment, ou alors ça vous glisse dessus ?
Bon, je vais pas vous mentir en vous disant que ça me glisse dessus tout le temps. C'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué à vivre. Après, quand on signe à Marseille, on sait où on met les pieds, on sait qu'il va y avoir des périodes magnifiques, comme il y en a eu beaucoup, et des périodes compliquées, comme il y en a eu aussi. Et voilà, le plus important, c'est d'arriver sur le terrain, de faire toujours le maximum à l'entraînement, de faire le maximum aussi, et surtout de continuer à prendre du plaisir au quotidien. Et j'ai la chance de vivre dans un groupe de joueurs où, enfin, au quotidien, on se régale, on est toujours là avec le sourire, même dans une saison comme l'année passée où c'était un peu plus compliqué collectivement. On se régale à l'entraînement avec ce groupe, donc au final, ça passe un peu au-dessus quand même.
J'aimerais juste, les gars, pour qu'on finisse sur ce petit dossier sur les critiques, après on parlera du reste, Villas-Boas notamment. Karim Benzema a tenu des louanges envers Valère il y a quelques jours dans ce fameux live Instagram.
Je voulais en parler de ça.
Bah, on va juste réécouter ce qu'il a dit et puis on en parle après.
Non, écoute, je vais t'expliquer pourquoi tu penses qu'il est nul. Il n'est pas nul. Mais Marseille, il a beaucoup de pression, frérot. Et il y a des joueurs qui peuvent et qui peuvent pas avec la pression. C'est pour ça que c'est dur pour lui, mais frère, il n'est pas nul. Hein. Frère, Marseille, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. T'es attaquant, il faut que... Voilà. Parce qu'il l'a fait des fois des matchs, il a planté des buts et tout. Enfin, Valère, si tu m'entends... Valère Germain, si tu m'entends ou t'as regardé cette vidéo, moi, je sais que t'es un bon joueur.
Voilà, je précise qu'il n'était pas avec son frère. Hein. Vous avez compris.
Non, il était. Alors, non mais justement, je pense que Valère a dû entendre parler de ça et il sait. Donc en fait, c'est ça, Valère, qui est intéressant mine de rien dans cette vidéo. C'est que il parle avec Momo Eni, qui est un mec de, on va dire, des réseaux sociaux marseillais, qui est très très suivi, qui est un peu, je pense qu'il m'en voudrait même pas de dire ça, un supporter marseillais de base, et un mec qui imagine peut-être que à Marseille, Messi ou Cristiano Ronaldo devraient jouer. Je ne sais pas pourquoi ils imaginent qu'il devrait y avoir des stars, peut-être, mais l'OM n'a pas les moyens. Et l'idée un petit peu de base comme ça récurrente, c'est de dire bon bah Valère Germain il correspond pas au profil que nous on rêverait d'avoir à l'OM machin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet avis, on va dire de base, il est contredit par un grand joueur qui lui explique, alors il lui explique pas assez bien, ce qui aurait été bien, c'est qu'il lui explique à quel point vous êtes utile à une équipe, à quel point votre état d'esprit est bon pour un groupe, et que dans cet OM actuel, eh bien ce que vous faites, c'est positif. Moi je trouve que c'est bien que ce soit un joueur du niveau de Benzema qui le dise.
Valère, qu'en pensez-vous?
Ouais, ben c'est sûr que c'est plus intéressant d'écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football, que ce soit d'anciens, d'entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées de football, qui connaissent vraiment le football. Et c'est sûr que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, oui, c'est sûr.
Parlons un peu de Villas-Boas, parce que on a l'impression qu'il a totalement séduit les joueurs et que vous êtes là en osmose totale avec lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe et est-ce qu'effectivement c'est l'entraîneur, enfin je sais pas, peut-être le plus marquant que vous ayez eu depuis le début de votre carrière, je sais pas.
Le plus marquant, je sais pas, parce que ce serait manquer de respect à tous les autres que j'ai eu et j'en ai eu pas quand même. Beaucoup de très bons, mais c'est sûr que il fait partie des entraîneurs qui laisseront une trace à tous les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de son groupe, quelqu'un qui est vrai, qui est vraiment franc avec toute personne du groupe et on a la chance que ça se passe bien dans les résultats, donc c'est toujours plus facile avec un coach quand les résultats sont là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est en grande partie grâce à lui aussi.
Pardon de te couper, Jérôme. On vient d'apprendre une nouvelle terrible. Je suis désolé de vous interrompre, mais on ne peut pas ne pas le dire maintenant. Pape Diouf vient de mourir.
Oui, alors Daniel, on attend confirmation. Hein. Je préfère attendre une confirmation.
Il y a plusieurs
officielle.
Sources. J'aimerais me tromper, mais il y a plusieurs sources.
Oui, le décès de Pape Diouf en l'occurrence, mais moi j'attends une confirmation officielle. Je préfère rester pour l'instant au conditionnel concernant Pape Diouf qui était hospitalisé à Dakar et qui a été rapatrié à Paris ces dernières heures. L'ancien président de l'OM. Donc tout ça a confirmé, bien sûr. Repartons avec Valère.
Là, tu nous parlais de ta relation, du moins la relation avec les joueurs de Villas-Boas, mais la discussion, pour en revenir vraiment à toi, la discussion que est-ce que tu as des discussions avec lui quand il est arrivé, certainement que tu en as eu. Toi, tu lui as dit tes préférences. Là, tu nous dis que tu fais des efforts et on le voit de toute façon que c'est pas ton poste de prédilection de jouer à droite, mais tu le fais pour le bien de l'équipe avec de la réussite par moment et moins de réussite des fois quand tu joues tout seul en neuf devant, moi je trouve et je pense que tu penses comme moi que c'est pas là que t'excelles aussi, que c'est mieux avec deux attaquants. Il le comprend ça ou lui il est à fond dans son dispositif tactique et puis advienne que pourra, tu joues où il y aura de la place.
Juste avant de te répondre, moi, si vous avez parlé de Pape Diouf, donc avoir une grande pensée pour lui, ses proches, c'est une nouvelle terrible là, pour tous les amoureux de l'OM là, parce que ça a été un grand monsieur pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, il est au courant que ma meilleure position c'est à deux devant, parce qu'il y a Ricardo Carvalho qui est dans le staff aussi et j'ai joué pendant une saison avec Ricardo et on a joué d'ailleurs durant cette saison, on avait joué souvent avec deux attaquants, notamment avec un système en 4-4 de losange. Donc le coach est au courant, mais il l'a répété plusieurs fois dans les médias aussi que son système était le 4-3-3, qu'il ne le changerait pas. Après, aujourd'hui, les résultats sont là, donc il a tout à fait raison de garder son système. Et il se dit que mais voilà, je peux peut-être apporter à une position à droite. Ouais. Comme je l'ai fait à Saint-Amas, il ne veut pas tout chambouler juste pour un joueur et remettre un effectif ou une équipe en péril juste pour solutionner le problème d'un joueur.
Mais en gros, moi je comprends très bien ce que tu es. De toute façon, c'est ce qui se passe et il a bien raison de pas changer son système à l'arrivée. Mais l'épanouissement d'un joueur, ton épanouissement était aussi important. Alors moi, j'ai vu que tu étais arrivé en fin de contrat, donc dans un an et demi maintenant, du moins presque un an. T'as pour ton avenir, ton épanouissement, pour bien finir, maintenant t'as quoi, 29 ans, 30 ans, c'est ça?
30 ans dans 15 jours.
Ouais. Ouais, donc 30 ans, t'as envie de forcément de t'épanouir au max, et que si tu t'inscris dans la durée à Marseille, alors je veux bien que l'état d'esprit nickel et tout ça, tu l'as et que tu te fonds dans le collectif et que les résultats sont bons, mais au bout d'un moment, l'épanouissement il passe aussi par un peu plus de minutes, le compteur qui tourne un peu plus, le ratio passe décisive et but. T'as des visions sur l'avenir ou tu veux rester comme ça jusqu'au bout de ton contrat à Marseille?
Ce que tu dis, c'est vrai, Jérôme, c'est qu'on a tous envie, bien que le foot est un sport collectif, on a tous envie d'être le plus heureux possible sur le terrain, d'être le meilleur possible sur le terrain. Après, je pense que cette saison, tout le monde sera gagnant si on obtient la qualification en Ligue des Champions. Tout le monde sera. Notre valeur à tous, elle augmentera parce qu'on a fait une super saison. Maintenant, j'ai quand même vécu beaucoup de belles saisons et de bons moments individuels dans ma carrière. Alors sur cette année, je joue à un poste qui, c'est pas qu'il me déplaît pas, enfin il me déplaît hein, parce que ça me déplaît pas de jouer là, mais je pense que c'est pas le meilleur poste pour me mettre en lumière. Mais on verra comment déjà se finit la saison. Il y a tellement d'incertitudes à plein de niveaux que c'est très compliqué de parler de la saison prochaine, mais faisons le maximum pour obtenir la qualification en Ligue des Champions. Tout le monde sera gagnant, tout le monde sera content, et puis on aura plein de discussions avec tout le monde après.
Ouais, bien sûr. Mais justement, dans votre cas, on préfère quoi? Vous préférez la façon dont vous vivez votre carrière dans un club comme l'OM, qui est dans le top 3 en France, ou titulaire club milieu de tableau de Ligue 1?
Ouais. Bah, si aujourd'hui j'arrête ma carrière, j'aurais pu dire que j'ai joué à Monaco, à Nice, on avait fait une saison exceptionnelle, à l'Olympique de Marseille, j'ai joué dans trois clubs qui sont dans les top 5, top 6 du championnat de France, peut-être. Et voilà, j'ai été champion de France de Ligue 1, champion de France de Ligue 2, j'ai été demi-finaliste de Ligue des Champions, donc, je suis très heureux d'avoir joué dans ces clubs. Et alors, il y a peut-être des saisons où j'ai pas eu un temps de jeu qui me rendait le plus heureux du monde, mais j'ai joué dans des très grands clubs. Enfin, je suis très fier.
Dernière question, Laure.
Oui, moi je voulais savoir pour revenir sur Villas-Boas. On a dit beaucoup de bien de lui et notamment loué ses qualités de manager, mais je voulais savoir si Valère, lui, en tant que joueur, il avait Villas-Boas apporté quelque chose de nouveau en termes d'entraînement, si c'était différent de ce qu'il avait pu connaître auparavant.
Ça me rappelle un peu ce qu'on faisait avec le coach Jardim. C'est vraiment une préparation à base de ballon. C'est vrai qu'on a très peu couru cette saison sans le ballon. Maintenant, on a vu physiquement cette année, on était prêt. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle méthode pour pas mal de joueurs dans l'effectif. Et puis, il a vraiment travaillé sur la cohésion du groupe. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre l'effectif de cette année et l'effectif de l'année dernière, avec au final très peu de changements, très peu de bouleversements d'effectifs. Donc c'est vraiment été là qu'il a fait la différence. On voit aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui n'ont plus du tout le même visage cette année que l'année passée.
Valère, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Et bonne fin de saison. À quel moment, quel que soit le moment qu'elle reprenne, hein, parce qu'on ne sait pas.
Voilà, donc,
ce sera peut-être juin, peut-être juillet, voire même plus tard peut-être. Et évidemment, on suit ça de près. Merci. À très bientôt dans l'After.
Merci à vous. Bon courage. À bientôt.
Bonne soirée, Valère Germain qui était avec nous dans l'After. Alors, effectivement, Daniel, concernant Pape Diouf, la télévision sénégalaise a annoncé son décès. Moi, je préfère pour l'instant rester prudent tant qu'on n'a pas de communication officielle, notamment de sa famille, puisqu'il n'est plus au Sénégal. légal. Il a été rapatrié en France, donc sous respirateur. Donc attendons d'avoir une confirmation officielle pour être évidemment définitif et espérons qu'il s'en sorte. Hein. Moi, j'attends ça. Faut toujours être très prudent dans ce genre de circonstances. Donc si on a plus d'informations d'ici minuit...
Tous les médias du monde l'annoncent, mais si tu veux...
Moi, je préfère.
Peu importe, hein, on ne se bat pas pour annoncer le décès de quelqu'un.
Exactement.
C'est juste que c'est très triste et que... Et que voilà.
Et une nouvelle fois, tant qu'il n'y a rien d'officiel, on peut lui souhaiter de s'en sortir et c'est ce qu'on espère tous. Dans quelques instants, en tout cas, on revient, supporters marseillais, pour reparler de la saison de l'OM et de Valère Germain, donc, qui était avec nous. A tout de suite dans l'After.
RMC.
L'After Foot.
Gilbert Bribois.
22h28 et bien sûr l'after est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Laure Lepailleur, avec avec Jérôme Roten. L'équipe annonce à son tour le décès de Pape Diouf à l'instant, messieurs, voilà, oui, messieurs dames, écoutez, une nouvelle fois, hein, pas de confirmation de la famille. Ça y est, Florent Germain nous confirme à son tour. Donc voilà, donc on va chambouler, je pense, notre after ce soir pour parler de Pape Diouf, qui était quand même un grand dirigeant dans notre football, qui a eu une longue carrière de journaliste, d'agent, avant de devenir président de club. Il avait donc 68 ans, Pape Diouf, ancien président emblématique de l'OM, hein, qui était regretté encore récemment par pas mal de supporters marseillais qui voyaient en lui le meilleur président de ces dernières années de l'Olympique de Marseille.
C'était je ne sais pas s'il l'était dans les faits, mais en tout cas, ce qui plaisait à Marseille, c'est un petit peu de la même façon qu'il y a des entraîneurs qui plaisent à l'OM parce qu'on dit qu'ils sont sincères et qu'ils parlent vrai. Évidemment, il y a dans cette lignée-là, il y a Guéret, il y a celui qui est actuellement en place, Villas-Boas, comme il y avait Goethals à l'époque. Ils correspondent, et à Marseille, c'est très important de correspondre à la ville, à la sociologie de la ville. Et Pape Diouf correspondait. Après, on peut toujours s'amuser à savoir s'il est mieux qu'un tel ou un tel ou un tel, mais à la limite, c'est pas tant ça qui est important à Marseille. Ce qu'on aime aussi, c'est quand quelqu'un correspond à la sociologie de la ville, qu'il se sent complètement passionné et investi dans l'aventure du club au moment où il y est. Et Pape Diouf a parfaitement correspondu à Marseille. Il a aimé ce club. C'était en plus un passionné de foot. Après, on pouvait avoir des divergences. Moi, je me souviens d'avoir eu avec lui. Il y a eu des anecdotes assez drôles, puis moins drôles, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais en tout cas, c'était un vrai passionné. Et pour l'OM, c'est une vraie perte, c'est un vrai président. En tout cas, clairement, il a marqué, parce qu'il y en a eu des tonnes de présidents à l'OM sur les 20 dernières années, il a marqué l'OM bien plus que beaucoup d'autres, ça c'est certain, ouais.
Bon, il était encore, vraiment, c'est allé très vite, hein, parce qu'il était encore en forme il y a quelques jours, puisqu'il avait pris notamment la peine d'appeler la famille de Malu Dibango, dont il était proche, pour lui présenter ses condoléances. Il était donc à Dakar, Pape Diouf, ces derniers temps, puisqu'il passait une partie de sa vie à Marseille.
Le truc super, c'est que quand j'ai vu qu'il l'avait attrapé, j'ai regardé son âge, et pour ceux qui l'ont fréquenté un petit peu,
68 ans.
On savait qu'il fumait énormément. Et là, j'ai été pessimiste très très vite quand j'ai su qu'il l'avait, parce que je me suis dit, vu son hygiène de vie au niveau de la clope, ça allait être très compliqué.
Bon,
je
en tout cas,
pas que ça irait si vite.
Le 32-16 est ouvert. On va bien sûr en parler toute la soirée de Pape Diouf, et ensemble, on va se remémorer tout ce qu'il a fait pour l'OM. Donc, supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Jérôme, j'imagine que tu as eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, toi aussi.
Pardon, ça avait coupé. Oui, bien sûr que je l'ai croisé plusieurs fois. Déjà au tout début de ma carrière, parce que quand il était agent de joueur, il voulait me récupérer. J'avais longtemps hésité. Oui, j'avais longtemps hésité au tout début de ma carrière. J'étais à Caen. Je jouais à Caen avec Étienne Mendy, qui est devenu après son associé avec lui, hein, dans sa boîte d'agents. Mais Étienne était joueur, donc voilà, je l'avais rencontré, comme j'avais rencontré plusieurs agents importants, influents de l'époque, comme Frédéric Taubrage aussi.
Tu l'avais eu dans Rotten Régal il n'y a pas si longtemps, hein.
Oui. Non, mais on avait une relation, mais un peu comme Daniel. Ce que je veux dire, c'est que son amour du football, sa connaissance du football, il avait rien à prouver. Et ça, cet amour de Marseille qu'il avait, c'est pour ça que c'est devenu un grand dirigeant de l'Olympique de Marseille et qu'aujourd'hui, il est reconnu peut-être un des meilleurs présidents de l'Olympique de Marseille. C'est aussi pour cet amour-là. Il a jamais, jamais, il a, bien sûr qu'il pouvait calculer certaines choses, mais là-bas il calculait pas. Il y a eu des divergences avec moi parce que quand tu
le petit télégraphiste.
Ouais.
Dans le choc de la nouvelle, j'ai oublié votre relation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes drôles.
C'est dans son livre.
Non, c'était une conférence de presse.
C'était
un après-match.
C'était un avant-match. Un avant-match, déjà, parce que les PSG-Marseille, ou Marseille-PSG, à l'époque, étaient beaucoup plus chauds qu'aujourd'hui. Et que, il avait eu quelques paroles un peu.
C'était juste après le match de l'Ammoniac, Jérôme. C'était juste après le match de l'Ammoniac. Oui. Et toi, tu avais relayé la plainte un peu des dirigeants qui disaient qu'on était mal accueillis là-bas. Et il avait dit, je n'ai que faire des propos de ce petit télégraphiste sans importance.
Sauf qu'avant, avant ça, il y avait eu quelque chose sur l'avant-match. L'avant-match, il avait dit que, en gros, je l'avais pas choisi comme agent à l'époque parce qu'il était black. Et ça m'avait fait mal parce que à l'arrivée, tu mets le racisme là-dedans, rien à voir, et en aucun cas je suis comme ça, et donc je lui en avais voulu, parce que tu peux mettre de l'huile sur le feu avant les matchs, parce que c'est le charme de ces matchs-là, mais là il était allé un peu loin, et je lui en voulais. J'avais répondu par voie de presse avant le match s'est déroulé comme il s'est déroulé, comme tu dis Daniel, l'Ammoniac, on le perd 1-0 en plus, il me semble, sur un but, c'est un but de Loric Sana qui venait d'être transféré, donc si tu veux, il y a eu un peu de tout. À la fin du match, il y a eu des plaintes. Moi, j'avais eu ces paroles-là en conférence de presse, et lui avait donc réagi par-dessus en disant le petit télégraphiste, je sais pas quoi.
Petit télégraphiste sans importance.
Voilà, exactement.
Après, vous vous étiez réconcilié.
Oui, non, mais en fait, moi, j'en ai longtemps voulu, parce que je suis pas rancunier, mais là, il était allé un peu loin. En plus, c'est. Mais oui, mais bon, c'est normal, Gilbert. Attends, tu t'attaques un mec sur ses origines, sur sa couleur de peau. Non, c'est pas possible. Moi, dans le foot, pour moi, il appartient pas à ces gens-là. Et j'étais un acteur important, donc tu peux pas m'attaquer là-dessus. Donc oui, on s'est pas parlé pendant un bon bout de temps. On s'était réconcilié ces derniers temps. Du moins réconcilié. On avait fait des émissions. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que je t'ai dit, l'homme qui a vécu dans le foot. Et qui est passé par toutes les étapes, tous les postes quasiment, à part joueur. Donc, oui, c'est, je suis peiné parce que ce putain de virus, il emmène trop de gens comme ça, passionnés, amoureux, et j'ai pas de mots pour dire dans quel état. Ça m'a choqué quand Daniel l'a annoncé. Je venais de le voir sur Twitter. C'est horrible de finir comme ça. Lui, le passionné de foot, j'espère qu'il aura au moins, il aura certainement, c'est pas au moins, il aura un super hommage à Marseille quand ils reprendront. Mais toutes mes pensées à sa famille, à ses proches, parce que c'est le plus important dans ces moments-là.
Alors, je vais rappeler un peu son parcours, parce qu'il a un parcours incroyable. Il a été diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence, donc après il a été journaliste, il a bossé à La Marseillaise, un journal qui n'existe plus aujourd'hui, à l'époque où il y avait 3-4 quotidiens à Marseille. Et puis après, il s'est reconverti comme agent. C'était un des plus gros agents français, quand il avait De Sailly, Lama, Sylvain Armand, Coupé, Didier Drogba, bref, il a aussi été l'agent de Samir Nasri à ses débuts.
Il a eu beaucoup de joueurs. Il avait à l'époque, quand je te dis Gilbert, franchement, il avait avec Dobrage, ils avaient les meilleurs joueurs sur la planète foot. C'était un agent très affluent dans les fins d'année 90. C'était énorme le portefeuille joueur qu'il avait. Donc, il avait. De toute façon, quand tu parlais avec lui, et vous avez eu l'occasion de converser avec lui plus d'une fois, tu parlais avec lui, il respirait le foot. Il sentait le foot. Alors après, on avait peut-être des fois des visions décalées, mais il puait le foot, ce mec.
Florent Germain est avec nous.
Une fois, il était allé un petit peu.
Correspondant de RMC Sport à Marseille.
Une fois, à force de vouloir défendre l'OM, il était un petit peu loin. Une fois, on avait fait une émission ensemble. On s'était bien marré. Je ne sais plus dans quel bar à Marseille on avait fait ça, Gilbert.
Oui, exact. Florent y était, je crois, l'OM Café.
Et quand il voulait, absolument me soutenir que Taïwan n'avait rien envie à Dani Alves, je l'avais regardé à la pause. Je lui avais dit je veux bien qu'on défende l'OM, mais enfin, quand même, on va se calmer un peu.
Il défendait ses joueurs. Hein. C'était à l'époque avec Eric Guéret. Florent, bonsoir.
Salut les amis, salut à tous.
Bon, toi aussi, tu l'as longuement côtoyé, bien sûr. Ça y est, c'est annoncé par tout le monde. Alors, vraisemblablement, il était encore à Dakar. Hein.
Oui, non, mais il est décédé.
Il y a eu des infos contradictoires là-dessus.
Sénégal. Non, il n'y a pas eu d'infos contradictoires. C'est qu'en fait, il devait être transféré cette nuit du côté de Nice, être rapatrié à Nice pour être hospitalisé dans le sud de la France. Bon, j'ai pu m'entretenir avec certains de ses proches qui m'expliquaient qu'en fait c'était un peu leur dernier espoir. Il était, son état s'était aggravé ce week-end. Il a été placé sous assistance respiratoire samedi. Il aurait contracté le virus lors d'un voyage en Côte d'Ivoire et rapidement, le virus l'a affaibli. Il a été hospitalisé donc à Dakar au Sénégal. Et effectivement, ces dernières 48 heures, tous ses proches en France, parce que évidemment il a ici beaucoup d'amis, de proches qui ont travaillé avec lui, qui l'ont soutenu dans tous les moments. Ils ont essayé de s'organiser pour le rapatrier, ce qui n'était pas évident, pour qu'il soit donc hospitalisé en France, parce qu'en fait certains médecins au Sénégal ont lancé l'alerte, je crois dès samedi, en disant on va pas y arriver, parce que Pape était dans un état, déjà préoccupant, et en fait ça n'a pas été possible de le rapatrier.
Bon, à Marseille, évidemment, ça va être une déflagration, Florent, parce que c'était une vraie personnalité, au-delà même du sport, parce qu'il a même été candidat au municipal, hein, je me souviens, pas ce coup-ci, là, mais au municipal précédente. Donc, il avait vraiment une vie importante à Marseille et autour.
Bah, en fait, j'ai déjà eu quelques messages là, de supporters marseillais, influents ou pas, mais qui sont déjà dans une frustration immense. Alors, Jérôme, j'entendais, disait à juste titre qu'il aura son hommage, hein, ça c'est sûr et certain. L'Olympique de Marseille lui rendra l'hommage qu'il mérite, mais après c'est vrai que pour beaucoup de supporters c'est une frustration déjà immense de ne pas pouvoir se réunir dans un temps normal si Pape était décédé d'une mort
Oui, il y aurait eu un hommage avec plein de gens qui se seraient déplacés.
Le vélodrome serait déjà le parvis devant le vélodrome serait déjà en train de se remplir, il y aura déjà des démonstrations parce que Pape Diouf, en fait chaque supporter marseillais il voyait un deuxième papa ou presque, c'est-à-dire que les supporters marseillais ont adoré son mandat, ont adoré sa personnalité, ont adoré son amour de l'OM et parfois se voyant lui quoi dans sa manière, comme tu l'expliquais Daniel, de parfois avec de grandes envolées défendre certains dossiers, d'être toujours passionné, d'avoir pris des
avec
décisions
avec son vocabulaire
fortes,
aussi, avec son vocabulaire, c'est avec son vocabulaire quand même.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Le plus frappant, moi je trouve chez cet homme, moi ça m'a toujours particulièrement frappé, c'est sa façon de s'exprimer. C'était un excellent communicant. J'adorais les mots qu'il pouvait utiliser. On voyait qu'il avait, lui, justement, ces études qu'il avait fait, cette façon de parler. Et quand on se rappelle un petit peu des années sous sa présidence, l'OM, c'était le seul qui, en termes de communication, rivalisait énormément avec l'autre président de l'Olympique, l'Olympique lyonnais. Moi, c'est par ce côté-là aussi
qu'ils étaient très, très potes. Hein.
Impressionné particulièrement.
Exactement.
T'as raison, exactement. Genre. Mais justement, on se rappelle de cette époque.
Ouais. C'était un érudit, hein, Pape Diouf.
Exactement. Moi, il m'a toujours bluffé sur ça. Moi, j'adorais l'entendre parler parce qu'il utilisait toujours des mots. Il avait la sens de la rhétorique. C'était assez bluffant.
Il y a encore quelques mois, tous les présidents qui sont passés après Pape Diouf ont souvent été critiqués, ont vécu des mauvaises périodes. Et c'est vrai que beaucoup de supporters marseillais disaient il faut que Pape revienne. Enfin, ça a souvent été l'exemple qui était repris dans la voix des supporters marseillais. Il y a eu énormément d'épisodes, mais celui des Minots, par exemple, envoyé au Parc des Princes sur une décision forte en
tant que Faut qu'on en reparle un peu plus tard, Flo, parce que c'est un des grands moments de sa présidence.
Alors, oui.
On fait 5 minutes dessus, dans quelques instants.
Tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, cette actualité dramatique nous rattrape ce soir. C'est l'anniversaire de Jérôme Rotten aujourd'hui. On avait prévu, Jérôme, une surprise pour toi.
J'avais même oublié la surprise du coup.
Parce que hier, dans le cadre de la but de Benzema, moi, je suis la Formule 1, Giroud, c'est le kart. Toi, tu nous as avoué que pour toi, ta Formule 1, c'était David Ginola et que toi, tu étais le kart de David Ginola. Et bien, figure-toi que David Ginola est avec nous. Bonsoir, David.
Ah. Bonsoir.
Salut, David.
Oh, la Formule 1 de Jérôme Rotten.
Bon anniversaire, Jérôme. Merci, David. Alors là, franchement, ça me fait énormément plaisir. C'est un super cadeau. Voilà,
écoute, j'ai reçu un message cet après-midi. Et on me dit, tiens, c'est l'anniversaire de Jérôme. Ce soir, sur RMC, si tu veux lui faire la surprise, C'est pas le genre de choses que je fais normalement, mais comme je t'aime beaucoup, ben je me suis dit oui, je vais le faire parce que c'est un garçon que voilà, j'écoute, j'adore ce que tu fais sur RMC, et voilà, donc je suis là pour te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que les conditions ne sont pas les plus favorables, on est d'accord avec tout. Voilà, donc voilà, ben écoute, quel âge ça te fait là?
Ça me fait 42 ans maintenant.
Oh, tu es mignon.
Ah ben oui, mais attends, et t'imagines, moi j'étais dans les tribunes du parc, j'avais à l'époque j'avais 12-13 ans et tu mettais la danse à tous les défenseurs, donc forcément après tu sais tu vieillis et mais c'était des époques, une époque incroyable. Tu m'as fait aimer le foot en fait, et vouloir porter ce maillot du Paris Saint-Germain. De toute façon, je te l'avais déjà dit, mais là je te le redis avec beaucoup d'auditeurs derrière nous qui nous écoutent. Donc voilà, c'est vraiment un énorme plaisir de t'avoir. J'aurais aimé que tu continues encore dans le foot parce que je pense que t'avais plein de choses à apporter. Alors t'as décidé de faire autre chose et tu le fais très bien. Mais quand je vois un tel joueur, ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain, de voir ce que ce club est devenu sans toi à l'arrivée, ça me laisse un petit goût amer quand même.
Tu sais que les choses dans la vie ne sont jamais définitives, Jérôme.
J'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils m'écouteront encore parce que je cesse de le dire et peut-être qu'un jour, en effet, bah peut-être qu'on se retrouvera tous les deux au Paris Saint-Germain, on sait jamais.
Hein. Écoute, ça fera beaucoup de joueurs à gauche, mais bon, sinon, enfin, c'est une bonne idée. Mais moi, je me rappelle aussi parce que c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière en 2002, je suis venu te voir souvent quand tu jouais à Monaco. Et surtout quand vous avez eu cette épopée fantastique en Coupe d'Europe. Et c'est vrai que bon, j'étais redescendu habiter dans le sud et je venais te voir à Monaco. Ça faisait juste un saut de plus pour moi. Et c'est vrai que vous aviez une équipe fabuleuse et tu représentais ce dynamisme et cette volonté que Monaco avait à l'époque. Et c'est vrai que c'était très agréable. Alors de savoir que tu étais jeune fan de moi, ben, c'était encore plus un plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler RMC ce soir pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Jérôme, tu le mérites. Tu le mérites pour ce que tu as fait dans le football et tu le mérites pour ce que tu dis aujourd'hui, tes commentaires, tes analyses, ce que tu dis. Tu n'es jamais en train de tirer sur l'ambulance. Tu respectes les joueurs. Tu as souvent des paroles justes quand il s'agit du jeu. Et ça, je sais que c'est pas évident parce que souvent, quand on arrête aujourd'hui, on regarde le football et on peut avoir un œil assez critique sur ce qu'on voit, sur ce qu'on. Mais toi, tu es très juste et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écouter tes commentaires et ce que tu dis. Donc voilà. C'est pour ça que je suis là avec vous.
Déjà qu'il a le couleur, mais alors là, avec tout ça, là, il va plus passer les portes. Hein.
Non. Tu sais, il y a une chose qui est très importante, Gilbert, c'est que le football, ça rend humble. Et le sport en général, parce que au-delà de tout ce qu'on peut voir dans le football, c'est-à-dire les beaux gestes, les buts marqués, les trophées gagnés, il y a énormément de travail. Et ça, je pense qu'on le met pas suffisamment en avant. Les années de labeur qu'il y a dans le football quand tu es jeune et que tu trimes comme un malade parce que tu veux réaliser ton rêve et que ces années-là sont très compliquées parce que la concurrence est très rude. Et qu'une fois que tu arrives, pour rester tout en haut, c'est encore plus difficile. Donc tous les jours, c'est du travail. J'ai fait l'interview de Ronaldo il y a quelques années, quand il a reçu le Ballon d'Or à Paris, et il me disait que lui, son objectif, malgré tous ses trophées gagnés, c'était de se lever le matin avec toujours l'objectif d'être numéro un, d'être toujours le meilleur, et que le jour où il perdrait cette envie-là de se lever le matin en voulant être le numéro un, il arrêterait. Je crois que le football aujourd'hui... on en parle souvent avec beaucoup de déni sur plein de choses, mais aujourd'hui il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le footballeur travaille énormément pour arriver à des résultats. Donc on arrive à rien sans rien, hein. C'est-à-dire le travail paye et c'est ce qu'on te dit dès ton plus jeune âge. Si tu veux y arriver, la réussite c'est 10% de talent, 90% de transpiration. Donc voilà, tu es obligé de passer par là et c'est vrai que bon, c'est quand même très jouissif quand tu arrives à des résultats après toutes ces années de travail.
David, vous savez qu'il y a une filiation donc entre vous et Jérôme au PSG. Même nos commentateurs, quand Jérôme était sur le terrain, eh ben il la faisait, on écoute.
Énorme but de Jérôme Rotten. C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes.
Voilà. Là, y a... Bon, c'était il y a quelques années, hein, mais bon, ça a
donné coup d'eau. Vous savez qu'au-delà de ça, il y a une différence fondamentale entre Jérôme et moi, c'est que Jérôme est un gaucher, un pur gaucher, et oui, il joue à gauche. Et moi, j'étais droitier et je jouais à gauche. Contrairement à ce que beaucoup de gens me disent,
je
n'ai jamais été gaucher. Hein. Je suis droitier, pur droitier. C'est en ayant travaillé énormément avec le pied gauche, avec à l'époque Albert Raymond à Toulon, que j'ai pu avoir la possibilité de jouer des deux pieds. Mais Jérôme est un pur gaucher.
Ah oui, ça, je te confirme.
Voilà.
David, un mot avant de vous quitter sur Pape Diouf. J'imagine que vous l'avez croisé vous aussi à de nombreuses reprises au cours de votre carrière. C'est une grosse perte pour le foot quand même ce soir. Hein.
Absolument, c'est quelqu'un qui a compté, dans le football. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la France et aussi pour le continent africain. Quelqu'un qui a toujours essayé d'amener des idées nouvelles, qui a été président de l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas une chose facile. Mais il restera, je pense, dans la tête des gens, quelqu'un qui a compté pour le football français. C'est très dommageable, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, toutes les pertes qu'on subit. C'est triste de voir tout ça, de voir des hommes de qualité qui s'en vont, en espérant qu'il y en ait d'autres qui prennent la place qui sont aussi portés sur l'avenir du football. Je crois que on en a besoin et dans les mois et dans les, je vais dire, les années qui vont arriver là, il va falloir être très très juste dans toutes nos démarches en tant que dans le milieu de football, dans la vie, et que pour faire une aparté par rapport à ce qui nous arrive à tous en ce moment, par rapport au coronavirus, j'espère que ça va nous servir de leçon, que ce confinement, cette privation de liberté va nous faire comprendre qu'aujourd'hui, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois... Voilà, la liberté de penser, la liberté de vivre, la liberté de pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. Tu te rends compte, quand tu es confiné, que tu en as l'obligation, que cette privation de liberté, ben, c'est peut-être la chose la plus difficile à vivre. Donc, ouais. Comme c'est quelque chose qu'on ne veut plus avoir, j'espère qu'on aura la lucidité en tant qu'être humain de pouvoir prendre les bonnes décisions qui s'imposent. J'habite à Londres, juste une petite aparté, je vous appelle de Londres là. Mm-hmm. Je peux vous dire qu'au-delà de tout ce confinement et tout, il y a une chose qui est positive, si on peut éventuellement sortir de quelque chose de positif, c'est que à Londres, il y avait une pollution latente qui était là au quotidien. J'ai jamais vu le ciel aussi clair. Je ne voyais pas le soir les étoiles, là on voit les étoiles. Qu'aujourd'hui on entend les oiseaux chanter, que franchement, si c'est pour attendre un tel problème pour retourner à des valeurs beaucoup plus simples de la vie, je trouve ça ridicule, et j'espère que demain on va prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'attendre une pandémie de virus pour comprendre que la vie, elle doit être beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante que ça.
Merci beaucoup David Ginola.
Merci David Ginola.
Salut David.
Salut Jérôme, bon anniversaire.
Merci et embrasse ton fils hein, qu'on a quelquefois. Salut.
Ouais, je sais. Il m'a dit, Jérôme, je l'adore, il est top. Chaque fois que je le vois, il est super sympa. Je lui dis, c'est normal, il était fan de papa quand il était petit.
Bonne soirée. À très bientôt.
Salut les garçons. Ciao. Salut les filles.
À très bientôt, David Ginola qui était avec nous. Voilà, bon, c'est vrai que la surprise.
Merci, les gars.
Les circonstances, malheureusement, sont pas top ce soir. On rappelle le décès donc de Pape Diouf qu'on a appris donc il y a quelques minutes. On sera de nouveau avec Florent Germain tout à l'heure. On va se réorganiser, bien sûr. On va se remémorer quelques-uns des grands moments aussi de l'histoire de Pape Diouf à l'OM. Pape Diouf, c'est lui qui fait venir Didier Deschamps. On va en parler. C'est lui qui envoie l'équipe des Minots au Parc des Princes. Vous en souvenez
au parc.
De cette histoire.
Je me souviens bien. Ouais.
Également, Jérôme, tu étais sur le terrain.
T'as joué, Jérôme, non?
Moi, j'étais puni par Guy Lacombe, donc j'étais remplaçant, j'étais rentré à la mi-temps.
Mais t'es rentré.
Oui, non, mais t'as été sur le terrain quand même.
Ah oui, non, mais je me dédouane pas. Mais à l'arrivée, le choix de me punir, c'était peut-être un bon choix d'entrée, quoi, parce que franchement, ce match a été horrible.
Et évidemment, le 32-16 est ouvert, supporters marseillais et les autres, hein, si vous voulez parler de Pape Diouf avec nous, on bouleverse notre after ce soir pour lui rendre un hommage. Notre sujet avec nos jeunes afteriens, on le reporte une nouvelle fois. Ce sera demain soir, bien sûr. Christophe est avec nous, il est supporter marseillais au 32-16. Bonsoir Christophe.
Bonsoir messieurs.
Bon, Christophe, quel souvenir tu garderas de Pape Diouf ?
Bon, ben, je vais quand même souhaiter, malgré les événements, un bon anniversaire à Jérôme.
Merci Christophe.
Voilà, parce que même si je t'ai détesté en tant que joueur de Paris, j'apprécie quand même ce que tu es devenu à la radio. J'apprécie, tu trouves que tu arrives à être objectif et c'est souvent intéressant ce que tu racontes, donc je voulais te le dire.
Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oh, non, mais c'était sincère. Pape Diouf, c'est une personne. À Marseille, on n'a pas eu beaucoup de bons présidents depuis l'ère Tapie. Je veux dire, je pense que si on doit en garder un depuis, c'est Pape Diouf, il faut dire ce qu'il est. Pape Diouf, c'est l'envoi des minots. C'est lui qui sort des phrases comme les nababs, il va falloir qu'ils commencent un peu à réfléchir parce que ici on est à l'Olympique de Marseille.
Les vizirs et les nababs.
Les vizirs et les
pour
nababs.
Être exact.
Voilà. C'était une voix aussi. On se souvient tous de la voix de Pape Diouf. Cette façon de parler, cette prestance. Moi, je l'ai croisé à Marseille. C'était quelqu'un de quand même assez impressionnant, de charismatique. Voilà. C'était quelqu'un qui était beaucoup apprécié. Je suis d'accord à ce qu'a dit Florent. Beaucoup de supporters marseillais le souhaitaient voir en président de l'OM encore dans l'avenir. Bon, ben, ça se fera pas, malheureusement. Donc, toutes nos pensées surtout pour sa famille, ses amis, parce que ça va être pour eux le plus dur. Pour nous, ça nous fait encore une personne qui quitte la famille OM après Michel Hidalgo il y a peu de temps. Donc, quand tout ça sera fini, en espérant qu'on soit le plus nombreux possible, on leur fera un grand hommage pour les remercier pour l'amour qu'ils avaient et tout ce qu'ils ont fait pour notre club, quoi.
Ouais. Une petite précision sur la période. On se rappelle d'épisodes comme ça qui nous ont marqués. Mais ce qui est peut-être le plus marquant, c'est ce qui est le moins flamboyant, mais néanmoins très très important, c'est la régularité. Pape Diouf, c'est sous sa présidence, donc l'OM fait cinquième en 2005-2006, deuxième en 2006-2007, troisième en 2007-2008, deuxième en 2008-2009. Ça. Il n'y a pas eu beaucoup de périodes où l'OM a été régulier comme ça. Et quand il s'en va en 2009, on s'en souvient, où ça pète avec Vincent Labrune. Et donc, il est viré. L'année d'après, il n'est plus le président, puisque Jean-Claude Dacier est nommé pour prendre sa place. Mais c'est l'année d'après que l'OM est champion. Donc, c'est une sorte d'aboutissement de sa période, ce titre de champion en 2010, avec Deschamps qui le fait venir de façon très habile d'ailleurs, parce que ça ne s'était pas bien fini avec Guéret, ce qu'il n'avait pas réussi à retenir. Il faut aussi rappeler ce petit épisode-là. Mais il a eu l'habileté d'un président de retomber sur ses pieds pour dire on perd Guéret, ce que les supporters de l'OM adoraient, et je fais venir Deschamps, capitaine emblématique de la Ligue des Champions, qui a donné le titre en 2010, un titre que l'OM attendait depuis 92. Voilà, quand même.
Christophe, merci beaucoup.
Oui, si je pouvais juste laisser un petit mot, je voudrais vous remercier de continuer à faire l'émission et surtout remercier ceux qui travaillent et qui prennent des risques pour nous, et en espérant que ça se termine rapidement et qu'on perde le moins de gens possible. Et merci à tous ceux qui se démènent pour qu'on continue à vivre le mieux possible. Donc merci à tous ces gens anonymes, merci à vous.
Eh ben merci à toi Christophe. Évidemment, nous on veut continuer à être ensemble, quoi qu'il se passe, bien sûr, pour essayer autant que faire se peut d'avoir deux heures positives dans la journée, même si ce soir évidemment c'est pas le cas avec le décès de Pape Diouf qu'on a appris donc il y a quelques minutes. On aura Eric Dimeco avec nous dans quelques instants. Il a évidemment lui aussi bien connu Pape Diouf. Florent Germain sera également avec nous et d'autres invités d'ici minuit. Donc l'after bouleversé ce soir suite à l'annonce du décès de Pape Diouf. Il avait 68 ans, il est décédé donc des suites du coronavirus à Dakar il y a quelques heures maintenant. On se retrouve dans l'after au 32-16 avec vous tous, supporters de l'OM et les autres, si vous voulez parler de Pape Diouf bien sûr, on est là jusqu'à minuit dans l'after. On se retrouve dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit,
l'after foot.